Hugo Brugière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président et directeur général de CyberGun. On va parler avec vous de votre actualité, avec la publication des résultats. On s'était vu à plusieurs reprises au cours des derniers mois avec ce nouveau plan de transformation pour CyberGun, nouvelle stratégie. Il y a visiblement une rupture dans cette stratégie. Il y a eu des choses qui n'ont pas permis effectivement que cette stratégie se mette en place. L'année dernière, qu'est-ce qui a rompu cette croissance?
Oui, alors je dirais pas qu'il y a une rupture dans la stratégie. Notre stratégie reste la même. Nous restons avec un plan de retournement dans son volet défensif et dans son volet offensif. Mais malheureusement, comme dans tout plan, il y a parfois des choses qui fonctionnent très bien et puis il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Et effectivement, on a annoncé ce matin, par transparence aujourd'hui avec le marché, qu'il y a deux choses qui n'ont pas été dans ce plan de retournement dans son volet offensif que nous avions prévu et anticipé. La première, c'est un recul sur des achats d'un de nos plus grands clients aujourd'hui aux États-Unis dans l'Airsoft. Et le deuxième, c'est un fort retard que nous avons pris dans la distribution de nos calibres .22 aux États-Unis. Donc, ce n'est pas une rupture à proprement parler dans notre stratégie et ce ne sont que des reculades, entre guillemets, puisque je ne suis pas en train de vous annoncer que les États-Unis ont interdit l'airsoft ou que l'Europe a interdit l'airsoft, parce que j'ai entendu beaucoup de rumeurs sur ce sujet-là. Ce n'est absolument pas le cas. On a pris un peu de temps, 9 mois de plus que prévu pour lancer le calibre 22. Ça va se ressentir dans les chiffres. Mais c'est pas perdu. Ce n'est que mieux repousser pour mieux sauter. Donc la stratégie, elle est toujours en place. On continue à tenir bon. Mais c'est vrai que ce sont des moments un peu difficiles aujourd'hui pour nos salariés et pour certains de nos actionnaires. Et vous savez, le problème, on en avait parlé la dernière fois aux États-Unis sur ces chain stores notamment, c'est que comme quand vous êtes en penny stock, les variations sont très importantes quand vous perdez une commande et quand vous gagnez une commande, ou quand vous perdez un centime ou que vous gagnez un centime. Dans le cas présent, on a effectivement un gros client qui a décidé, pour plein de raisons plutôt politiques et philosophiques, de déréférencer une partie des produits d'Airsoft. Voilà, c'est les États-Unis.
Alors, ça peut inquiéter aussi les investisseurs en se disant, s'il y en a un qui le fait, il peut y en avoir d'autres qui aussi adoptent le même type de...
C'est effectivement un risque que nous avons pris en compte déjà il y a quelques temps. Quand on s'était vu la première fois, je vous avais dit qu'on essayait de faire plusieurs choses. La première chose, c'était de sortir de notre trop forte dépendance au marché américain. Parce qu'on est beaucoup trop dépendant. On l'était en tout cas, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On était beaucoup trop dépendant au marché américain. Pour cela, on a ouvert deux nouveaux marchés qui étaient l'Amérique latine et le Japon. Donc ça, c'était la première chose, sortir de ce marché américain. Et la deuxième chose, c'est de sortir de cette dépendance au chain store par l'airsoft. Et donc, on a fait rentrer dans ces chain store aujourd'hui de l'airgun et on va faire rentrer demain des calibres .22. L'idée étant de fortement diminuer notre exposition au risque sur l'airsoft.
Vous parlez de 9 mois sur le calibre effectivement 22. De 9 mois, ça paraît une éternité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il y a eu un problème de management de cette...
Non, il y a un problème, si vous voulez, politique aux États-Unis. Il y a un problème politique aux États-Unis assez clair sur les calibres 22 qui sont des armes à feu. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la présidence des États-Unis d'Amérique n'est pas particulièrement favorable à une extension du marché des armes à feu aux États-Unis. Elle essaye même plutôt de fortement la contenir. Donc en réalité, là où il vous faut habituellement 7 à 8 semaines pour avoir un dossier étudié par l'autorité américaine de régulation qui vous donne les autorisations de mise sur le marché, il nous a fallu plus de 8 mois et demi pour le faire. Donc, mais ceci dit, ce n'est pas une autorisation que nous allons demander à chaque import. C'est une autorisation que nous demandons une fois pour le produit. Donc ça repousse effectivement, mais nous sommes toujours présents sur ce calibre-là et nous allons fortement y rentrer dans les semaines à venir maintenant.
Alors il y a aussi des attentes sur justement peut-être des chaînes régionales pour d'autres partenaires que vous êtes, c'est en cours
Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, aux États-Unis, 16 clients en gros font 60% de votre chiffre des États-Unis, qui eux-mêmes représentaient il y a encore un an 50% du chiffre d'affaires du groupe. C'est-à-dire que on est dans une dépendance qui était beaucoup trop importante. Et cette dépendance, on est en train d'essayer de la casser. Pour essayer de la casser, il y a effectivement, vous le disiez, ces petites chain stores. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a le monopole en termes d'airsoft sur la quasi-totalité des chain stores aux États-Unis. Walmart, Dollar General, Big Five, du NAMS, Dick's Sporting Goods, etc., etc. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher les petites chaînes régionales qui font pas forcément les mêmes volumes que Walmart ou les autres, mais qui vont permettre de diluer un petit peu le risque. Parce que, encore une fois, quand Walmart vous prend un produit, c'est 2 millions de dollars en plus. Quand Walmart retire un produit, c'est 2 millions de dollars en moins. Donc les variations paraissent spectaculaires, alors qu'en réalité, dans l'ensemble du groupe aujourd'hui, on est plutôt sur une stabilité, voire une progression du business à périmètre constant hors chain store.
Alors vous dites aussi à l'occasion de cette publication que vous allez prendre vous-même en charge la partie États-Unis, donc ça va vous faire plusieurs casquettes. Comment s'organise l'entreprise pour faire face ?
Vous savez, je crois qu'il faut véritablement à un moment donné qu'on remette Cybergun là où elle est, c'est-à-dire une PME. Cybergun, le vrai problème, c'est que de rêve en rêve, d'année en année, elle est devenue une multinationale cotée et elle a oublié qu'avec multinationale cotée, il y avait le truc PME. Aujourd'hui, on a moins de 100 salariés dans le monde. C'est quand même pas, on n'est pas en train de parler d'un truc pharaonique. Et même si on est effectivement sur plusieurs continents et dans plusieurs pays, quand vous regardez véritablement les équipes de management, ça se pilote assez facilement avec une très bonne équipe de direction. Et j'ai une chance extraordinaire là-dessus, c'est que j'ai une très très bonne équipe de direction en Europe qui aujourd'hui pilote merveilleusement bien le navire. C'est quand même une des clés de la réussite. Donc, je vais aller aux États-Unis avec des Européens qui vont gérer assez bien l'Europe, mais nous sommes une PME, on doit redescendre un peu sur terre.
Du côté des perspectives, est-ce que pour autant, là, vous dites que la stratégie est maintenue, mais est-ce qu'il ne faut pas changer le profil de Cybergun, avoir à un moment donné d'autres activités que celles historiques finalement ? Qu'est-ce que la question se pose ?
Bien sûr que la question se pose. Il y a deux erreurs stratégiques que Cybergun a réalisées, à mon sens, il y a une dizaine d'années. La première, ça a été de ne pas rentrer dans l'ère de l'Internet. Ça a été une erreur magistrale du groupe qu'elle a payé très très cher. Elle a essayé de faire des jeux vidéo, mais on ne peut pas véritablement parler de nouvelles technologies sur ce sujet-là. Mais elle a fait cette première erreur fondamentale, non pas pour se substituer au business model qui était celui de Cybergun à l'époque, de vendre à des magasins qui eux-mêmes vendent à des consommateurs finaux, mais pour aider véritablement nos clients et pour essayer de globalement protéger ses marges et de protéger ses réseaux de distribution. C'est la première erreur stratégique qu'elle a faite. La deuxième erreur stratégique, c'est que quand vous regardez ce que nous donnons à nos fournisseurs depuis une vingtaine d'années, on leur a permis, en leur donnant un coût de 10 millions, 20 millions, 30 millions de dollars par an aux uns et aux autres, on leur a permis de s'asseoir sur un énorme tas d'or. Et où aujourd'hui, ils viennent un peu nous grignoter les mollets et puis nous expliquer que maintenant, ils n'ont peut-être plus forcément besoin de nous pour vendre directement en Europe ou pour vendre directement aux États-Unis. Et la seule chose qui aujourd'hui permet au groupe Cybergun de tenir face à cette concurrence asiatique déloyale, c'est nos licences, c'est la puissance de nos licences. Donc, nous aurions dû à l'époque investir dans des usines. Quand vous mettez 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions de dollars par an dans des usines, avec 30% de marge, 40% de marge, même 20% de marge, vos usines en 10 ans, vous les avez rentabilisées 6 fois. Donc, il fallait véritablement faire ces choses-là. On ne va pas reparler du passé, le passé est derrière nous. Maintenant, vous avez raison, il y a des questions concrètes qui se posent aujourd'hui sur le business model, mais ces questions, on se les est déjà posées. On se les est déjà posées il y a un an, puisque le business model de Cybergun, il y a un an, c'était l'airsoft. Nous avons dit, on va faire de l'airgun, nous avons dit, on va faire également du calibre 22, nous avons dit, on va retravailler sur les battle zones. Les battle zones, vous avez sans doute vu quelques communiqués que nous avons fait récemment, on a relancé le concept, mais on ne l'a pas relancé nous-mêmes. Je vous l'avais dit, je préfère avoir 30% d'une société qui fait 100 millions qu'avoir 100% d'un truc qu'on essaie de faire vivre au quotidien. On s'est associé à quelqu'un qui sait faire des battle zones, il en est la deuxième battle zone ouverte à Abu Dhabi, plus de 5 millions de dollars d'investissement. Il continue, il y en a une nouvelle qui va ouvrir à Dubaï dans les mois à venir, il y en a une autre qui est prévue en Arabie Saoudite et ensuite nous en avons d'autres qui sont prévues en Europe. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres projets. Le principal problème, si vous voulez, que nous avons, c'est que nous sommes aujourd'hui, nous heurtons aujourd'hui au plus gros défaut d'une société cotée, c'est la transparence qu'elle doit avoir vis-à-vis de ses actionnaires, mais qui est également une transparence vis-à-vis de ses concurrents. Et c'est le vrai souci que nous avons aujourd'hui.
C'est effectivement un vrai sujet à gérer. Merci Hugo Brugière.
Merci à vous.